Au mois de décembre l'année dernière, le 18 décembre, eh bien, j'ai été faire ma visite médicale, puis j'avais fait ma prise de sang et tout. Ah ben, on m'a ni pris mes photos, ni mon arrêté, ni mon enveloppe, non, l'argent, oui, de la visite, oui, on me l'a pris. On n'a pas voulu me le donner parce que c'était les fêtes de Noël. Alors, on me prend encore pour un
Et après,
alcoolique.
t'y es retourné après, non?
Ah non, non, je suis pour tourner. Ah non, je suis écœuré.
Ouais.
Moi, les finances, je ne peux plus. Hein. Elle dit, les prises de sang qu'ils me demandent, moi, j'en ai pour 260 quelque chose, si c'est pas dans les 300 balles maintenant. Moi, je ne peux pas me le permettre. C'est pour ça que je voudrais bien trouver une personne, moi, et puis qui regarde mon dossier. Et moi, je porte plainte, hein, parce que là, moi, je commence à en avoir ras-le-bol. Puis le mois de décembre, moi, je n'ai pas reconduit, non, je n'ai pas relancé. Et je vais essayer de relancer, c'est au mois de février. Mais je ne fais pas de prise de sang. Ça, c'est hors de la loi. Ils sont hors la loi. Alors moi j'estime qu'on m'a bien posé la question, c'est d'être dans la loi. Alors moi j'ai dit, je serai dans la loi, mais maintenant c'est la loi qui n'est plus dans la loi. Parce que j'avais donc 1 an de retrait de permis, et puis 18 mois donc d'être au machin au service de la justice pour mes soins. Hein. Bon, tout ça, moi, ça a été fait. Et après, quand je l'ai demandé, eh ben, ils me l'ont redonné.
Ouais.
Ils me l'ont redonné pendant 1 an.
Ah,
et c'est à 1 an, il fallait que je refasse une visite médicale pour qu'ils me reprolongent mon permis. Et bien, ils n'ont pas voulu me le reprolonger parce que vu que c'est pas mes gamas, hein, c'est l'autre machin. Et ben, il était trop fort.
Ah oui, pas les gamas GT, mais autre chose.
Ah ben les gamas GT, je vais te dire une chose que j'ai su la définition ce que c'est, parce que ça n'est pas obligatoirement de l'alcool qu'on prend. Parce que tu prends un coup, et ben oui, ils augmentent. Et il y a plein de choses que le docteur m'a expliqué. Il dit, c'est pas obligatoirement. Il y a des gens qui ne boivent pas, hein, et qui ont un taux de GTI vraiment fort. Et j'ai mon voisin, lui, il est encore plus fort que moi. Et pourtant, il ne boit pas une goutte d'alcool.
Donc ils ont vu un autre chose sur le papier.
Ah ben non, celle-là, c'est exprès pour... logiquement, on doit être à la fourchette, elle doit être à 20. Alors si tu dépasses les 20, si tu es à moins, parce qu'il y a des fois j'étais à 16, bon, c'est bon. Mais si tu dépasses les 20, hein, comme c'est au mois de juillet là, que je l'avais machiné, j'étais à 36, et ben c'était trop fort. Soit pour eux, j'ai plus mes réflexes. Voilà, j'ai plus mes réflexes, alors que j'étais en pleine forme, que j'allais travailler, et puis tout le bazar, et je vois pas. Moi, de toute façon, je bois toujours mon vin en mangeant, vu qu'ils veulent pas me remachiner pour mon permis, de toute manière, alors. On sait pas pourquoi.
Ouais.
C'est sans arrêt, bon, bah, des prises de sang, et moi j'en ai ras-le-bol de faire des prises de sang. Ah oui. Ah ben non, mais. Tu consommes, moi que je consomme pas, le jour par exemple, si j'ai, pendant les 18 mois là, quand on m'avait redonné mon permis, eh ben, je sais que la prévention maintenant, c'est ne plus boire une goutte d'alcool le jour que j'ai mon véhicule, que j'ai le volant. Mais maintenant, qu'on vienne pas me dire que pour l'autre alcool, je suis désolé que là maintenant on va directement dans mon corps pour savoir si je continue. Je suis désolé, ça c'est atteinte à la liberté. Je suis désolé. Je veux bien faire un sacrifice, suivre la loi. On m'a demandé de suivre la loi, je suis la loi. Maintenant qu'on ne vienne pas m'empêcher de boire un verre de champagne au moment des fêtes ou des machins comme ça. Non, moi je suis désolé. Je suis un citoyen comme tout le monde. Alors moi j'estime que eux c'est... Tu crois que pour les fêtes, ils boivent que de l'eau? Moi, le principal, c'est moi que j'ai mes réflexes et puis que je me sens très bien. Je ne vois pas pour quelle raison. J'ai été voir à Creil là, pour, soi-disant, on m'avait demandé de me soigner. Ben, la personne qui m'a accueilli, elle m'a dit, mais monsieur, excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Vous n'êtes pas un alcoolique. On est tous... c'est pas parce que vous allez boire un ou deux verres ou alors avoir fait une fiesta que vous êtes un alcoolique. C'est de temps en temps. Que un alcoolique, c'est celui qui va boire 3-4 bouteilles de tous les jours. Alors là, il a acheté la gueule rouge. Hein, c'est carrément l'esclave. Mais j'ai dit non, mais oh. Du coup, elle m'a fait un mot là pour que je donne à la justice et tout ça. J'ai pas besoin d'être soigné pour ces machines-là. C'est pour ça que j'essaye de combattre pour cette chose-là.
Donc toute l'année-là, t'as pas bougé ?
Ben, j'ai pas bougé.
Rien.
J'ai rien fait. Rien. Tant que j'ai pas mon permis, que de toute manière, je suis bloqué. Moi, je suis obligé de. Qu'est-ce que tu veux faire ? Bon, je me suis plus calmé, j'arrive mieux à dormir maintenant. Mais il y a un moment, je ne pouvais plus dormir. Ah ben, c'était cauchemar sur cauchemar. Hein, c'est... Ah, de tout ce qui m'est arrivé, hein, c'est ça me montait au cerveau. Hein. Le matin, j'étais là, et puis alors, paf, allez, je te reprends et je pars tout seul. Et comment je vais faire ? Et t'es ici et là. Hein. Et pour quelle raison qu'on me condamne comme ça ? Je te dis, c'est vraiment. C'est affreux, affreux. Non, mais moi, j'étais obligé d'y aller à un moment, mais c'était de me soigner des nerfs. Hein. Ouais. Ah oui, j'avais été voir le toubi pour me soigner des nerfs. Hein. Ah non, j'ai cessé. Non, parce que moi, les questions médicaments, tout ça, j'aime pas tellement.
Mais t'en as pris un peu juste pendant.
Non. Même. Ah non, non. Ah oui, pour les nerfs. Hein. Ouais. Ah, pour les nerfs. Ouais. Oui. Et à la base de plantes, là. Ça fait du bien. Ah, si. Moi j'en avais déjà pris, mais c'était quand j'étais jeune, et ça c'est vrai que ça te fait du bien.
Ouais, ça détend.
Ah oui, ça détend. Les visites médicales qu'on faisait dans le temps, hein, ben, tu étais torse nu et tu allais à l'urine. Hein, c'était vraiment une visite médicale, que là rien du tout. C'est okay. Pas des visites médicales, déjà tu es tout habillé. C'est voilà les gestes, tirer les machins, tirer la langue. Oh là là, bah, catastrophe. Oh, vous avez la langue sale. Hein. Oh, catastrophe, vous avez plus que 3 dents. Non, mais je dis, qu'est-ce. Alors maintenant, je ne pue plus l'alcool, parce qu'avant, je puais la bière. Maintenant, je pue le tabac. Et je dis, voilà autre chose maintenant.
Et t'on dit ça ?
Oui, oui. Alors. Mais il n'y a aucune loi qui interdit de boire de l'alcool hors de la conduite. Il n'y a aucune loi qui interdit de boire.
When I feed on air, rocks and coal, iron ore.
Radio libre, boire, bien boire. L'intimité sous surveillance.
My hunger turns. Hunger feed a field of bran. Gather as we can the bright poison we.
Jacques Écariste. 8 mois sur 12, il alterne travail et chômage. Sa femme Michèle est greffière au tribunal de Beauvais. Ils habitent dans la banlieue, dans ce pavillonnaire des années 30. L'entretien a lieu la veille d'une seconde opération des cordes vocales, touchée par un cancer. Nous nous connaissons depuis 3 ans, et régulièrement j'ose leur demander comment le chemin se parcourt, les petits bonheurs, les craintes. Aujourd'hui, la peur est là. C'est la veille de Noël. C'est l'heure des promesses aussi. Des fermes intentions. L'un et l'autre s'interrogent sur l'alcool, les arrêts, les reprises, les tentations aussi. Le récit est en hémorragie.
Moi, je croyais qu'il allait arrêter. Je me suis dit, bon, bah, cette fois-ci, avec un cancer, il va avoir vraiment peur et il recommencera plus. C'est fini, on va être tranquille. Et ben non, j'ai pas respiré longtemps parce que, en fait, bah, c'est revenu assez vite. Mais c'est revenu parce qu'il a eu une baisse de morale, je crois. Parce qu'à un moment donné, l'autorino lui a fait peur. Je crois que c'était celui de Clermont que tu avais vu. Et en fait, tu as eu la frousse. Et puis, bon, bah, il a reconsommé de l'alcool. Et voilà, c'est reparti, quoi.
Après le cancer, la décision.
C'est moi qui ai décidé une abstinence. Je suis abstinent depuis le 9 novembre. Oui, ça fera 9 décembre, un mois. Et bon, le tabac, j'en fume une dizaine encore par jour. C'est une décision de moi. Je peux arrêter comme je veux. Hein. C'est ça, bon. Puis après, bon, après le mois que je vais passer en alcoolologie, dépression, enfin, il y a un peu de tout là-dedans, dépression et tout ce qui s'ensuit, je pense que le tabac, tout va s'arrêter. Hein. Ah non, puis c'est dans ma tête. Hein. Parce que tout se passe, c'est la tête. Hein. Bon, puis j'ai eu des médicaments nouveaux. Bon, il y a tout ça. Bon, j'étais anxieux. Il m'a filé de l'exomil, il m'a filé de d'Ivarius. Puis mon Clipal pour ma douleur. Puis bon, je fais du kiné. Bon, puis tout. Je vais tout faire là-bas, quoi. Bon, je pense que tout va se passer impeccable pour l'an 2004, quoi.
Les jours de rechute.
Et après l'hôpital, bon bah c'était une période de calme. Hein, c'était bon, il était fatigué, mais il allait bien. Et en fait, je crois qu'il a pas cessé d'aller bien jusqu'à là il y a quelque temps où il y a eu les ganglions qui sont réapparus. Mais il allait bien et en fait il s'inquiétait inutilement. Et je crois que c'est ça qui a provoqué la rechute. Je pense au mois de mars, ouais, je situerais ça quand même relativement peu de temps après, parce que mars-avril, okay, à peu près, où il a rechuté au niveau alcool, oui. Mais bon, étant donné que ça n'a pas été tout le temps, il s'est arrêté de temps en temps, et c'est ce qui est surprenant, parce qu'en fait, c'est dur d'arrêter l'alcool. Oui, il lui arrivait quand même, je pense, de consommer assez fort, hein, parce que les dernières fois, il ne se rappelait plus du tout de ce qu'il m'avait dit le lendemain, il ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait, donc il y avait quand même des problèmes de mémoire importants. Hein. Non, c'était quand même assez fort.
Le corps s'effondre, réagir.
Puis il y a mon collègue aussi qui est décédé maintenant depuis, ça fait un mois maintenant. Et puis bon, lui, il a eu la chimio, il a eu des rayons. Et puis moi, j'étais opéré. Puis lui, il a été opéré au mois de juin. Et puis bon, il est décédé au mois de novembre, avant le...
Du même cancer.
Donc, toute la gorge. Ils ont ouvert là les cordes vocales. Alors, donc, bon, ça fait un petit coup de fouet quand même. Mais enfin, je me suis ressaisi quand même, parce que bon, depuis, je n'ai pas... j'ai dit, il faut que je tienne le coup. J'ai dit, merde, il y a quelque chose... je vais rentrer là-bas à ma cure. Mon sevrage sera fait, et puis il n'y a plus que le tabac maintenant, il faut y aller, et puis bon, je veux tenir, et puis 2004, je veux que ce soit une... Hein, surtout pour Michel.
Malin, les petites occasions.
Bizarrement, au mois d'août, il y a eu une interruption totale d'alcool. J'étais en vacances, j'étais là tous les jours, et il n'y a pas eu d'alcool du tout. Donc c'est un mois complet sans alcool. Et j'ai retravaillé, et le premier jour, l'alcoolisation a ressurgi.
C'est pas vrai.
Tout de suite.
Donc il ne faut pas retravailler.
Non, je crois qu'il ne fallait pas que je retravaille. Il fallait que je reste là. Mais bon, c'était à chaque occasion aussi, quand il allait à Paris, le fait de s'en aller tout seul, même à l'hôpital. Hein. Il avait un petit peu de monnaie dans ses poches. Il profitait de l'occasion.
Ah bon, sur la route même ?
Sur la route même. Ça, c'est quelque chose qui est encore plus difficilement acceptable. Et j'arrive pas à le comprendre, ça.
Non, c'était sur la route. C'était au retour.
Malin.
Malin comme un loup. Hein. Mais bon, avec ma voiture personnelle. Mais bon, je faisais gaffe. De toute façon, je buvais juste quand j'arrivais dans le coin. Quoi. J'étais malin. Quoi. Bien sûr, il ne faut pas être fou. Hein, parce que je ne vais pas boire sur l'autoroute ou des trucs comme ça. Un accident, c'est vite arrivé. Bon... quand j'y pense maintenant, c'est vraiment des trucs dingues, quoi. Je pense que dans la tête, il y avait des trucs. Quand je vois l'autre, là, il me disait « bon, ça va pas », l'autre, le chirurgien, il me dit « bon, c'est ça va, mais bon, dans ma tête, ça n'allait pas, quoi ». Bon, il y a ça aussi, hein, de toute façon. Le jour qu'on m'a annoncé le cancer, moi, c'était dur pour moi, hein. Je dis ce que je vais. Puis déjà avec le décès de mon copain, bon, je sais que maintenant ça va très bien. Depuis mon sevrage là que j'ai fait tout seul, je suis fier de moi. Il n'y a plus que le tabac. Le tabac, à partir de dimanche, je fume plus. 2004, il vient me voir. Plus de cigarettes, plus rien. Si, si, c'est là-dedans, ça. On l'a toujours dit, hein. Jamais regarder derrière soi, toujours devant. Ça, on connaît la combine. Hein.
Jouer avec la chance, avec le mal.
Je me disais, s'il ne décide pas du tout à adopter une ligne de conduite droite, vraiment, s'il fait des écarts tout le temps comme ça, le cancer va revenir, la maladie va revenir. Et c'est pour ça que j'étais vraiment inquiète et que je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas admettre qu'il ait envie de... Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, c'est parce qu'il a eu, il avait peur aussi, il n'était pas bien, donc c'était un échappatoire, ça lui permettait d'oublier un petit peu. Mais c'est très difficile à admettre pour l'entourage. Parce qu'on se dit, il va bien, il a ses chances, et en fait, il est en train de les foutre en l'air, quoi.
Et vous lui disiez quoi ?
Ben, je lui disais, j'essayais de lui faire la morale, mais il fallait la faire à jeun. Comme à chaque fois, parce que parler à quelqu'un qui abuse, c'est pas la peine. Il s'en rappelle plus le lendemain. Donc tous les matins, c'était la leçon de morale. Et il en avait marre parfois. Ça lui prenait la tête, donc il partait dans la cour. Ou il me laissait... Puis j'avais l'impression qu'en fait, ça n'atteignait pas son but, que ça servait à rien du tout. Et je crois quand même que ça faisait un petit chemin dans sa tête, plus ou moins, parce que... Pour que le jour où on a débarqué à l'hôpital et que d'un seul coup il ait dit « Ah oui, oui, je suis d'accord, je veux bien me faire soigner pour l'alcool aussi », c'est que certainement il en avait marre lui-même de boire. Je crois qu'il arrive toujours un moment où l'intéressé aussi, il n'en peut plus. Il est mal.
Les grandes déclarations pour les rêves.
On peut discuter le soir, quoi. Qu'avant, c'était pas pareil. Bon, moi, c'était dans mon petit coin. Elle, bon, elle s'en allait chez son frangin. Je dis, merde, je suis toujours tout seul. C'est ça qui m'a foutu un peu en rogne un petit peu. Je dis, merde, il faudra que je me remonte un petit peu. C'est ça que, bon, il faut se remonter, quoi. Si on tombe dans le trou, ça, j'y ai tombé. Mais là, j'ai dit, non, je ne peux pas que je retombe dans le trou, il faut que je me remonte moi-même. C'est pour ça que j'ai pris la décision de faire une abstinence pour l'alcool. Bon, le tabac, maintenant, ça va venir à partir de dimanche, et puis point final. Hein. Puis après, il n'y aura plus de tabac, ceci, cela. Parce que moi, avant, je fumais une cartouche de cigarette. Si on fait le calcul sur un an maintenant, on peut faire un beau voyage. Ou s'acheter une belle voiture, enfin une belle voiture, une voiture plus récente. Mais j'ai pas la folie des voitures, mais enfin, du moment que je peux... on peut voyager à droite, à gauche, aller en Normandie, comme moi j'ai pas mal de famille par là-bas. Enfin, toute ma famille par là-bas, je peux voyager un petit peu. Bon, je sais pas si j'irai jusqu'à la retraite, mais bon, peu importe, mais... Si je ne bois plus, je ne fume plus... je pense que bon, mon cancer, le chirurgien me l'a dit franchement, il me l'a dit, monsieur Grenier, si vous arrêtez de boire et puis de fumer, votre cancer, c'est une merveille. Il m'a dit, c'est une merveille. Mais là, si vous continuez comme ça, il y aura des problèmes. Hein. Bon, qu'est-ce que je vais faire? On arrête tout.
Et ce corps usé?
J'ai 52 ans. Mais j'ai travaillé à l'âge de 14 ans, puis je fais beaucoup d'intérim. Bon, je suis à droite et à gauche, ceci, cela. Mais ça ne me dérange pas, ça. Mais je veux retravailler quand même. Je suis chariste. Mais avec mon bras, je ne sais pas comment ça va faire. Bon, je ne peux pas me recycler dans autre chose. J'ai eu deux hernies, j'ai été opéré du genou. Faut pas espérer être embauché. Hein. Je pense être en retraite... Même si j'ai une demi-retraite à 57 ans, 58 ans, je m'en fous. Tout le monde que je vis bien. Point final, Michel, on achète un camping-car, on s'en va tous les 3 mois. Point final, la belle vie.
Querelle de Brest.
Je me suis dit que la meilleure politique, c'était de m'en aller pour pas le voir. Pour pas supporter, mais j'arrivais même pas les derniers temps, puisque justement il devenait trop agressif et il me cherchait querelle sur n'importe quoi. J'arrivais même pas à m'en aller parce que il me fichait pas la paix, quoi. Je me souviens, j'allais dans la cour, il me suivait dans la cour pour continuer à se disputer pour n'importe quel motif. Donc, je sentais que cette fois-ci, je pouvais pas continuer comme ça. Donc, il fallait que je trouve une solution. J'avais même menacé de le mettre dehors. J'ai même physiquement, j'ai même pris par un bras en lui disant, vas-y, prends la porte. Et bon, il n'est pas parti. De toute façon, il n'était pas en état de s'en aller. Il n'aurait pas pu conduire ni quoi que ce soit. Mais je sentais que là, vraiment, moi, je ne pouvais plus continuer comme ça. J'étais à bout, quoi. La maladie en plus, non, là, je ne pouvais pas accepter les deux. Non, pas les deux.
Lundi 14 novembre. Cher docteur et chère équipe de Senlis, je rassemble mon courage pour vous écrire tout en me demandant si je fais bien. Depuis plus d'un an déjà, Pierre a deux attitudes. Tantôt il est normal, tantôt il semble en crise. Il est rempli d'agressivité à mon égard, ainsi qu'envers sa fille Marie. Chaque mouvement est épié, moqué. Hier il m'a même bousculé. Quand il rentre du travail, il s'assoit à la table pour prendre un casse-croûte et s'y endort. Quand c'est comme ça, c'est la guerre. Il est méchant. J'ai tellement peur. De très vieilles images me viennent à la mémoire. Je ne crois pas qu'il soit en rechute. Il fait toujours du vélo, mais il est en crise de quelque chose. À 40 ans, il est à un tournant. Souvent, il regrette de ne pas avoir eu envie de travailler à l'école. Il a eu envie de changer de travail, il me l'a dit souvent, et il sait bien qu'avec le niveau de son français, il ne peut s'inscrire nulle part. Nous n'avons pas de problème particulier. Nous avons tous les deux du travail. Notre fille est en pleine santé. Elle travaille très bien à l'école. Nous n'avons pas contracté de dette, en aucune façon. Nous avons un compte en banque irréprochable. Pourtant, Pierre fait une idée fixe avec l'argent. Mais ça, ce n'est rien. C'est son comportement agressif. Et quand il s'endort partout, en étant méchant quand il se réveille, qui m'inquiète. J'ai peur que ça recommence. Nous formons un vrai couple. Notre vie conjugale fonctionne bien. Peut-être a-t-il besoin de parler à un psychologue ou de vitamines. Hier, il a parlé de suicide. Il a dit que ce qu'il retenait de le faire était la peur de se manquer. Je sais que quand il vient vous voir, il ne dit pas tout ça. Et je ne vais plus avec lui parce que devant lui, je ne peux pas parler. Comme je vous l'ai dit, ces périodes de crise ne sont pas nouvelles. Je vous écris parce qu'hier, lorsqu'il m'a bousculé, j'ai eu peur et j'ai pensé à vous. J'espère de tout mon cœur qu'il ne reboit pas, car je l'aime. Il a tellement fait pour nous, pour lui. Pourquoi tant de mal à vivre? J'en ai un peu marre des gens qui accusent les autres de leur vie ratée. Ratée à leurs yeux. Moi, je ne trouve pas sa vie ratée. C'est une vie, c'est tout. Et je ne veux pas qu'il me croie responsable. Cette attitude n'est pas adulte. Je voudrais qu'il s'assume, comme en revenant de cure. Avant, quand le docteur V me l'a rendu, qu'il soit remercié jusqu'à la fin de mes jours, Pierre était devenu coquet. En ce moment, il ne s'achète aucun vêtement, à part pour le vélo. J'aimerais le voir beau, dans des habits frais et neufs. Pareil pour notre appartement. Quand il est revenu, il entreprenait de lui-même de faire ci ou ça dans la maison. Maintenant, je n'ai le droit de rien. Nos rideaux ont plus de 12 ans. Il ne dit pas non, mais reporte et reporte sans arrêt. Voilà la situation. Il a besoin d'aide, de votre aide. Il a besoin d'amour et je ne peux lui donner. C'était Atrium que le docteur V lui donnait. Le problème, c'est comment allez-vous reprendre contact avec lui sans qu'il se doute de quelque chose. Surtout, ne lui faites pas sous-entendre que c'est moi qui suis à l'origine de ça. J'espère que vous trouverez une solution. Je vous demande de faire vite, s'il vous plaît. L'autre jour, comme j'allais chez le docteur, il m'a demandé de prendre quelque chose pour les nerfs, pour lui. Le docteur m'a prescrit l'Exomil. Donc, en revenant du pharmacien, je lui donne le tube. 3 jours après, donc hier, il m'a jeté le l'Exomil à la figure en me disant « Je ne prendrai pas ton truc. » Or, moi, j'avais rien demandé. Encore une fois, il déplace les responsabilités. Même au sujet du temps qu'il va faire, on se dispute. On entend le même bulletin radio et lui interprète mal ce qui est dit. C'est pour tout comme ça. Sans arrêt, il me reproche ma paye, dit que je ne suis pas assez payée. Je rapporte 9300 francs nets à la maison. Pour une femme, c'est bien. Je suis à bout. Venez-moi en aide. Venez-lui en aide. Mais soyez fin afin de ne pas me mettre en cause dans cette reprise de contact. Merci pour ce que vous ferez. Respectueuse salutation. Jacqueline.
une devanture éclairée au néon. Il est 20h. Des militants de l'association Vie Libre nous ont invités à discuter. Ils nous présentent Elisabeth et son amie. Trop de dégâts, trop de force, trop de désordre qui détruisent la vie. Elisabeth a dit stop et nous raconte les points culminants. L'ange et le démon.
J'ai fait du nettoyage industriel, de la maçonnerie, de la menuiserie, pas mal d'emplois. J'ai travaillé à l'hôpital aussi. Et puis, et là, je me suis retrouvée sans travail, quoi. Maintenant, je recherche, mais pour faire de la préparation de commandes et passer une licence de chariste. Ouais. Je vis avec mon ami. Ouais. J'ai pas d'enfant à charge, ouais. Heureusement pour lui, parce que pauvre. J'ai commencé à boire, j'étais assez jeune. Bon, disons que j'ai quand même pas mal galéré. Je me suis retrouvée... Je suis partie de chez mes parents. Donc, j'ai pas mal traîné dans les rues. J'ai beaucoup... J'étais SDF, quoi, pratiquement. Donc, j'ai commencé à boire. Bon, après, ça s'est calmé quand j'ai rencontré mon ami. Et puis, bon, j'ai pris l'habitude. Un verre à droite, un verre à gauche, deux verres, trois verres, je me sens bien, et ainsi de suite, quoi. Et, je me suis fait soigner l'année dernière par le docteur 1, sous Espéral. Ça a marché pendant 4-5 mois. Et j'ai replongé au mois de septembre cette année. Mais alors, catastrophique, quoi. Là, ça a été la crise de démence. J'ai pas fait de cure, j'ai ni de médicaments. J'ai été voir le docteur 1, je lui ai expliqué mon cas, je lui ai dit voilà, je veux arrêter, stop. Là j'ai été trop loin, ça a débordé. Et là ça fait 3 mois que je bois plus d'alcool. Moi j'ai 2 personnalités en fin de compte, bon, comme toute personne qui boit un peu trop, je pense. Bon déjà je suis dépressive. Déjà il y a la dépression. Mais le fait que moi quand je bois, je deviens violente. Je me dis vraiment violente, quoi. Ce qui s'appelle avoir des crises de démence. Moi je suis même plus un ange, je suis un démon, quoi. Pour moi c'est. Je peux même pas expliquer. Il y a quelque chose qui se produit là-haut. Et la personne qui est en face de moi, même si je veux pas lui faire de mal, je lui en fais quand même, quoi. C'est pas la personne que je vois réellement. Donc j'ai arrêté comme ça, définitivement, j'ai dit stop. Parce que c'est quand même aberrant, quoi. Moi, au mois de septembre, je me suis retrouvé avec ma bouteille de whisky à côté de mon siège en conduisant, quoi. Et ça fait 11 ans que j'ai la voiture. Et j'avais toujours dit, le jour où j'ai mon permis, je ne bois pas. Donc ça a été le dérapage qui a fait que j'ai dit, je l'arrête, quoi, stop, c'est bon. Je ne veux pas recommencer avec ça. Voilà. Donc moi, j'ai dit, j'arrête. Là, je vais avoir 3 mois, là, bientôt. J'ai arrêté le 9 septembre. J'ai dit, stop. Moi, je sais que moi, quand je me voyais le matin, et que je voyais le dégât que j'avais créé la veille, mais c'était une horreur, quoi, pour moi. Je me disais, mais c'est pas possible. On aurait cru un raz-de-marée qui était passé dans l'appartement, quoi. C'était vraiment une étagère qui était fixée au mur. Moi, je la dessoudais alors qu'il aurait fallu un pied de biche, quoi. Donc, c'était vraiment l'extrême, quoi.
Donc, votre amie était toujours en réparation ?
Voilà, elle était toujours là pour m'épauler. Parce qu'il faut aussi préciser que je suis homosexuelle. J'ai pas peur de le dire. Et c'est mon amie qui est là et qui, malheureusement, a subi tout ça. A subi la pression, a subi la violence, a subi... tout ce que j'ai fait, quoi. Mais elle a toujours été derrière pour me dire, bon, fais quelque chose, quoi. C'est pour ça qu'elle vient avec moi, régulièrement.
Voilà. Et le refus de médicaments, c'est...
C'est systématique. Je veux pas.
Pour plein d'autres, même pour d'autres maladies, d'autres choses, d'autres...
Non, non, seulement pour l'alcool, je ne veux pas. Je veux me prouver à moi-même que je suis capable de m'en sortir comme ça, que... Je crois que c'est une force de caractère. Pas volonté, parce que, bon, à l'association, ils n'aiment pas trop le mot volonté. Donc, je vais employer ça, c'est la force de caractère. Et dire, bon, non, ça fait trop de... C'est trop néfaste, beaucoup trop néfaste. Pour la santé, pour le mental, pour la vie privée, pour tout. C'est néfaste, vraiment néfaste.
Des récits qui se font les yeux baissés, coupables, des jours gris qui en privé se déchirent. Les relations au travail, à la famille, aux enfants, tout tremble. Mais peut-être faut-il n'écouter que le souffle contrarié, le souffle souffrant de solitude. Ne pas parvenir à respirer, et respirer absolument pour trouver des forces. Souffrance du silence, souffrance du stigmate.
Déjà, quand j'ai commencé, bon, j'ai eu des pertes de famille qui ont été très proches. J'ai eu des pertes aussi de travail, dans des pertes d'amis aussi au travail qui étaient très proches. Je les ai perdus, ils ont été tués, tout ça. Et...
Vous faites quoi comme métier?
Je suis fonctionnaire de police.
Fonctionnaire de police.
Bon, disons, je ne vais pas critiquer la police parce que... Après, bon, j'ai eu la famille, j'ai été aussi entraîné par les amis. Il ne faut pas croire, parce que chaque fois que vous allez dans une soirée où, tiens, on prend un verre, deux verres, trois verres, après on se dit, bon, ça devient une habitude.
Donc c'est après, des amis de travail?
Il y a des amis de travail, même la famille. Vous avez une réunion de famille, ce soit un anniversaire, tout ça, un verre, deux verres, trois verres. Bon, quand ça s'arrête là, après on se dit, tiens, trois verres, ça fait rien. Après, on y va un peu plus régulièrement. Après, tiens, trois verres, on va aller encore des doses plus importantes. Et, ce que j'ai fait, quoi. Quand j'étais un peu contrarié, ou quand j'avais, surtout quand je me retrouvais tout seul, quoi. Hein, même quand je travaillais, au lieu de prendre, je sais pas, une boisson... non alcoolisé. Bon, je dis, tiens, on va prendre un verre d'alcool. Après, je leur ai pris deux. Après, c'était trois. Et c'était même jusqu'à prendre après la bouteille. Au lieu de travail, j'en prenais jamais.
Ah bon?
Non, au lieu de travail, c'est surtout à domicile. Pensant que ça va me rendre encore plus fort, que j'aurai plus de facilité. Je dis, tiens, je vais faire ce travail-là. Et hop, on va boire un verre. Ça, je vais me donner un coup de fouet. Et, bon, ça a été jusqu'au jour... j'étais abattu, quoi, en fin de compte. Et ce que je vois des fois quand j'en prenais des fortes doses, le soir, au lieu de discuter avec mes enfants, même rien que 5 minutes, j'étais des fois affalé sur le divan, je pouvais même pas discuter avec eux. C'est tout, quoi.
Mais normalement, le lendemain matin, en retournant travailler, il reste encore des... faut pouvoir y aller, quoi.
Ben non, disons, on a un peu la bouche pâteuse, dire que j'étais,
Vous n'avez jamais vu un médecin du travail?
Non. Non, disons que... là je vais critiquer les collègues ou l'ensemble corps du métier, c'est un tabou. On n'en parle pas. On sait qu'il y a des alcooliques... Mais c'est un tabou. Disons qu'on représente une force de public. La force publique, normalement, doit montrer le bon exemple. Et au lieu d'aider psychologiquement ces collègues qui sont ces problèmes-là, soit qu'on leur donne des sanctions, mais on ne leur propose pas de dire, tiens, disons maintenant, ça commence à le faire. Ça fait peut-être 2-3 ans. Et on commence à leur donner des possibilités à être soignés. Mais au début, c'était un sort de tabou, parce que même, le collègue qui se fait soigner, qui suit une cure, après, il est mis dans une catégorie à risque. Parce que, ouais, il y a toujours un risque, après, il va faire une rechute, tout ça. Mais on le classe, au lieu de prendre tout de suite, il a bu, c'est un alcoolique... On ne va pas le replacer comme un homme normal.
Vous avez eu des sanctions?
Non. Non.
Mais c'est quoi les sanctions qu'on donne?
Ces sanctions, c'est une mise à pied. Peut-être aller jusqu'au renvoi. C'est des très fortes sanctions. Quoi.
Ça, vous l'avez vu? Vous avez vu des gens se faire...
Renvoyer, je n'ai déjà pas vu, mais se faire des mises à pied, oui. C'est un chantage. Comment dire? Quand vous voyez un alcoolique, un vétéran, je veux bien imprégner tout ça, on va dire, bon, vous allez vous faire soigner, on va faire ce chantage, boum, boum. Vous le faites ou vous ne le faites pas. Bon, disons que moi, pour un alcoolique, je dirais pas que j'étais un alcoolique vraiment atteint, un alcoolique grave, disons. J'en ai vu d'autres se faire sanctionner. On me dit, bon, vous, comment dire, vous soignez ou on vous met dans un placard à terminer.
Une bonne journée de travail et l'on se récompense. Un apéritif, deux, trois. Dans les situations de travail ordinaires, il est fréquent que se produisent des incidents et des accidents dont on ne comprend pas l'origine et qui bouleversent l'attention et l'autocontrôle. Mais le travail, des femmes particulièrement, peut être une œuvre de déception, de doute et de découragement. Alors le travail s'inscrit dans une destruction de soi proprement dramatique. Travail absurde que l'on réprouve. Les femmes disent cette souffrance, le petit assommoir du soir, face à l'insécurité morale.
J'ai arrêté par moi-même avec l'aide de mon médecin traitant et j'ai réussi à arrêter 3 ans. Puis là, le couple a explosé parce que bon, il n'y avait plus de l'alcool et j'ai pas pu me raccrocher à rien. Je travaillais en usine à ce moment-là et c'était surtout de l'entraînement, c'est-à-dire bon, c'est avec le boulot, c'est bon, on a bien bossé, on a bien mérité un apéritif, où on va manger au restaurant, on finit en boîte et tout ça, bon. Et ça a été aussi insidieux. Donc maintenant, bon, c'était systématiquement.
C'était dans le travail, sur le lieu du travail.
Non, jamais. C'est-à-dire que je suis entrée en création d'entreprise. Donc on travaille tous pour l'instant, on est deux associés plus quelqu'un d'autre qui va nous aider, tous dans le même but d'y arriver. Donc bon, quand on arrive à un résultat et qu'on sait qu'on va gagner là-dessus, c'est souvent l'occasion de fêter ça. Toutes les occasions sont bonnes. Même si on n'a pas fait le contrat, bon bah, on voit quand même, tant pis, on ne l'a pas fait, quoi. Et c'est insidieux. Et j'ai vraiment percuté, c'est quand mon fils m'a dit « Maman, tu sais, si tu continues comme ça, un jour, je n'emmènerai plus mes copains parce qu'ils vont dire « Ma mère est alcoolique. » C'était, je le considérais comme une récompense. Il y a une bonne journée de boulot, on boit l'apéro, mais mon problème, c'est que quand j'ai commencé à boire un whisky, si j'arrête à un whisky, ça va. Si j'en bois deux, c'est fini, je ne peux plus m'arrêter. Après, ça va être quasiment fini à la bouteille ou à table, ça va être du rosé, du rouge, il faut continuer. Et par contre, je pouvais être très bien 3 jours ou 4 jours sans y toucher, sans problème. Mais dès que j'ai goûté une goutte d'alcool, c'est convulsif, quoi. C'est de l'alcool à tout prix. Je ne suis pas alcoolique. Et on en est arrivé là, quoi. Et puis,
vous arriviez à travailler un peu comme
ça? Oui, je m'imposais. Donc, c'est vrai que la fatigue s'accumulait. Bon, j'ai quand même mon fils pour lequel il fallait se lever et tout ça. Et puis, bon, je me suis dit, à un moment, ça va pas le faire longtemps, quoi. Le jour où on aura vraiment la boîte, que ça va être des horaires précis, plus des réunions et ceci, cela, il va falloir que je sois nickel au boulot parce qu'il n'est pas question que j'oublie le moindre truc.
Et vos collègues, ils vous ont aidé un peu à...
Quand je leur ai dit, ils m'ont dit oui, c'est une bonne démarche. Et ils se sont posé la question en se disant, bah, nous aussi, on pourrait peut-être certainement bien, quoi.
Mais avant de leur parler de la cure, vous en avez parlé, vous en parliez pas, entre vous en parliez sur des quantités de la consommation, vous en parliez ou pas?
Non. Bon, ils voyaient bien que j'en consommais, mais eux aussi en consommaient. Donc je pouvais pas dire à t'en bois trop ou t'en bois un, hein, voilà, parce qu'on était tous pareils, quoi. Voilà. Et bon, c'était pas des concours ni rien du tout, hein, je veux dire, c'était simplement bon pour l'histoire de, on croyait souffler. Et puis, ce n'est pas du tout une manière de souffler. Hein. C'est parce que le lendemain, les problèmes sont toujours là.
Et ça fait un an que vous
essayez de... Oui, en gros, c'est vraiment en route.
Je ne sais pas, l'année d'avant, l'année 2001, 2000...
C'était le chômage, des ennuis financiers, ou même j'arrivais à ne plus ouvrir les lettres parce que je savais ce que c'était. C'était des factures, des lettres de rappel. Je dis, bah, je n'ouvre pas, de toute façon, je sais ce que c'est. Je ne peux pas régler. Et en fin de compte, on s'est caché le problème parce que le lendemain matin, la lettre est toujours là. Et puis, c'est pas en achetant l'alcool que je vais réussir à payer mes factures non plus.
Et vous aviez quitté l'entreprise du textile en quelle année?
Dans le textile, c'était un travail où on m'a demandé de ne pas penser, surtout. Alors ça m'a cassé. Je veux dire que bon, pour. Ici, j'en ai discuté avec des dames, des gens qui travaillent sur presse et tout ça, des gens qui travaillent à la chaîne. On leur demande d'être productifs et surtout très productifs. Ça tue quand même. Déjà, c'est fatigant physiquement et c'est fatigant dans la mesure où on ne nous demande même pas un effort. On est juste là comme une autre machine. Et le soir, en rentrant, c'est quand même le boulot, c'est les enfants, c'est le ménage, tout ça, il y a tout. Et c'est être abaissé. Donc là, j'ai dit, bon, ben, j'arrête aussi ce boulot-là parce que ça me bouffe complètement. Je ne suis pas moi-même, je ne suis pas là pour être la machine de la machine.
Donc vous avez démissionné ou vous êtes...
J'ai eu un arrêt maladie avec mon médecin traitant au moment où je me suis arrêtée de boire. un arrêt maladie assez long. Et puis, en fin de compte, bon, avec mon patron, d'un commun accord, je demandais qu'il me licencie. En pensant que j'allais trouver du travail tout de suite. Mais je n'ai pas retrouvé, enfin, si, des CES, des petites bricoles où on n'a pas d'importance. Et ensuite, ben, je me suis procuré un ordinateur et je me suis formé complètement dessus, sur Internet, sur tous les logiciels qui pouvaient exister. Puis maintenant, bon, l'informatique, ce n'est plus... Enfin, c'est pas que c'est plus secret, mais je me suis formé dans un but de vraiment de créer une entreprise, de vraiment de... Et puis là, bon, on va y arriver, quoi. Mais je crois que la majorité des femmes ici, c'est des gens souvent... soit c'est vraiment les mères au foyer à qui on demande de ne pas exister, ou les mères au foyer qui sont aussi travailleurs en usine ou travaillent sans responsabilité et qui se sentent complètement perdues, quoi. En gros, c'est un peu ça.
Donc ça, c'est une autre alarme, c'est quitter son emploi, être licencié, être au chômage, espérer trouver quelque chose, on ne trouve pas. Et donc, on n'ouvre plus les enveloppes parce qu'on se doute que ce sont des factures. Et puis, on...
Ben, je sais pas. Bon, moi, j'avais l'intention de faire plein de stages. Et en fin de compte, bon, c'est vrai que tout ce qui est ANPE, agence de formation et tout ça, pour les femmes, on pense à rien que d'être agent pour nettoyer par terre ou être aide-poeur, éducatrice. On ne nous propose pas vraiment grand-chose d'intéressant. Quand on dit, moi, je veux faire du graphisme, une fille, tout ça, non, ça ne fait pas pour une fille. Après, j'ai voulu être formatrice, et on m'a trimballé pendant quasiment 9 mois avec ça, en me disant, bah, ok, tu peux rentrer dans un stage de formation pour être formatrice, mais tes assédics vont sauter. Je fais comment, moi, pour vivre pendant... Ah ben oui, mais il fallait me le dire avant. Donc, on m'a emmenée en bateau, j'y ai cru. Et, donc, les formations pour les femmes ne sont pas adaptées. On leur propose d'être... technicienne de surface, je dis que c'est pas mal, hein. Ou travailler dans les hospices, enfin on demande que ça, quoi. C'est des formations, donc il y a aussi des femmes qui peuvent avoir envie de faire complètement autre chose, mais c'est pas prévu au programme.
Le 17 janvier. Visage marbré, fatigué, vit avec sa mère dont on a soigné le deuxième mari. Jean ne travaille pas, il a 2 enfants de 6 et 8 ans, il boit trop depuis 5 ans, accélération depuis 3 ans, vient boire chez des copains, marié aussi, en week-end. Dans la semaine, 3 litres de vin en mangeant, en fête, des bières en plus et des rallonges, il est en tremblement. En week-end, un peu partout, je m'ennuie en HLM. 8 mars. Bien meilleur aspect, pas de tremblement, à retrouver de l'appétit, bon fond, je suis sympa et tout. On le revoit à 17h avec sa femme. Je suis seul, sa femme n'ayant pas de moyens de transport, n'a peut-être pas envie de venir. On téléphone à sa femme. Je ne sais pas si j'ai confiance, j'ai pas pu venir. Un gosse m'a cassé un carreau avec une pierre. Quand il a bu, il m'insulte. 17 mai, le médecin contrôleur envoyé par l'usine est passé 2 fois. La première fois le 30, avec remise d'un papier. Pas d'inaptitude au travail. Ensuite, un rendez-vous pour 8 jours plus tard. Le malade explique qu'il veut un sevrage hospitalier au médecin contrôleur. La deuxième fois, le 25 mai... Sans plus d'examen, ils mettent une croix à « inapte au travail ». 15 juin, aspect feuilleté, il a lu les lettres, car il retravaille sans problème. Elle attend, elle et ses 2 enfants. Aucun problème avec son employeur, Alstom. Il a bu de l'Americano, un vin cuit sans alcool le lundi de Pentecôte. Il a eu une petite décéphalée, des malaises. Sa femme est satisfaite, on peut discuter. Il dit que l'espéral n'est pas remboursé. De toute façon, l'alcool ne l'est pas, répond sa femme. Le 29 juin, on voit sa mère qui amène son gendre. C'est elle qui a acheté l'espéral car pas d'argent. Sa paye ne passe pas dans l'électricité ou le gaz. La belle-mère avait décidé que sa fille ne viendrait pas. C'est un drôle de couple, dit la mère. Ils ont des tares tous les deux. 24 août. Ça ne va pas. Pas clair. Ça a duré 2 heures.
Tant qu'on a un travail, c'est vrai qu'on on s'auto-réduit quand même, parce qu'on se dit, bon, demain matin, 6 heures ou 6 heures debout. On est conscient qu'il faut rester 4 heures sur une machine, il n'est pas question de piquer du nez et de s'endormir. Bon, c'est vrai que de soi-même, on réduit sa consommation. Le fait d'être au chômage, ben, on se lève un petit peu plus tard, ou on se recouche aussi. On assure le matin avec les enfants, l'école, le ménage, tout ce qu'il y a à faire. Mais après, on a des périodes de petits creux. Donc si on a forcé un petit peu la veille, ça nous permet de reposer. Le midi, bon, on est présent pour le repas tant qu'on est encore bien. L'après-midi, bah, si le midi on boit un peu ou un truc comme ça, l'après-midi on peut faire une sieste et être bien pour le soir. Et réattaquer. C'est trop de temps libre et l'occasion de pouvoir se reposer et de même le cacher en fin de compte.
Et donc ça perturbe éventuellement le sommeil ?
Complètement, oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression, enfin pour moi, je parle à mon titre, j'ai l'impression que l'alcool c'était mon somnifère. C'était mon somnifère. Pour moi, aller dormir, c'était une perte de temps, alors que j'en avais plein, en compte. Et j'arrivais pas à fermer les yeux sans ça. Une fois bon, avec un bon coup dans le nez, ben, plus ou moins, quoi. Ben, on dort. On dort mal, mais on dort. Et puis le matin, on se réveille encore plus fatigué. Et puis le soir, ben, même chose. Voilà, c'est l'engrenage, quoi.
Mais au fil du temps, pour s'assommer et s'endormir, et on ne se réveille pas la nuit de temps en temps
Moi, non. Non. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui se lèvent pour boire. Non. Moi, une fois que je m'étais endormie, et le matin, je ne buvais jamais. J'ai eu une toute petite période qui a duré 15 jours. C'est là où mon fils m'a dit, maman, attention. C'est que le matin, je me mettais à trembler. Et j'avais trouvé la parade, c'était de boire un verre de rosé. Puis d'un seul coup, je me suis dit, mince, ça va pas là quand même. Si tu commences pour ne pas trembler à boire de l'alcool, c'est que t'es dedans. Hein. c'est les plus gros signes hein, quand on dit, bon, on parle de quelqu'un qui est alcoolique, qui se met à trembler une fois qu'il a bu son demi, il boit plus, il ne tremble plus. Moi, je buvais un verre de rosé pour simplement ne plus avoir ces tremblements. Et des amnésies qui sont assez méchantes, quoi. Parce que, bon, même avec très peu d'alcool, on prenait l'apéro à plusieurs, bon, après. Il y avait dans ma tête, sur certaines soirées, il y a des trous où je ne me rappelle pas à telle heure, un tel est parti. Et puis, bon, enfin, on fait une omelette, on fait des steaks, des frites. Et au fur et à mesure de la soirée, ben, on continue à boire. Et puis, des fois, sur mon portable, je regardais le lendemain. Je dis, tiens, j'ai envoyé un texto à 2h du matin à telle personne. Je dis, mais ça ne va pas, je ne me rappelais pas. Ou alors, on me disait, ben, tiens, t'as appelé telle personne à minuit pour lui demander ça. Je me dis, mais non. Il m'a dit, si. Et je regardais sur mon portable, oui. Et ça, c'était, c'est oublié à tout jamais, ça ne me reviendra jamais, quoi. Donc c'était que des on-dit. Au départ, je me dis, oh, sous 2 mois, c'était pour me charrier. Mais non, je le faisais vraiment. Parce qu'avec le portable, j'ai la preuve comme quoi.
Et dans les épreuves de rencontres avec d'autres, avec la famille, ou le samedi, ou le dimanche, le fait du regard des autres, est-ce que ça produisait un contrôle de votre consommation ? Est-ce que ou vous évitiez ?
Moi, dans ma famille, à partir du moment où j'avais décidé d'arrêter de moi-même de boire pendant 3 ans, dans ma famille, c'était une famille où l'alcool fait partie de la systématiquement. Il n'y a pas de repas sans alcool, ils ne savent pas. Et mais moi, mon père m'a dit clairement, t'avais arrêté, je ne veux plus te boire avec une seule goutte d'alcool dans un verre ici. Donc ça fait plus de 10 ans que chez mes parents, je ne bois. Donc même si j'ai passé une semaine de vacances chez mes parents, je ne buvais aucune goutte d'alcool. Mais c'était caché, quoi, en fin de compte. Oui. Je ne buvais pas chez eux.
Mais c'était une épreuve difficile.
Non, parce que, bon, bah, chez mes parents, il y a maman qui fait chauffer ça, tout ça, donc j'étais aussi un petit peu éloignée de mes problèmes, de tout. Et puis, bon, bah, je ne voulais pas leur montrer que je rebuvais, quoi. Parce que c'est la honte, quoi.
Mais aussi. Vous supportiez de voir les autres consommer devant vous ?
Complètement. Ouais. Et ça, des fois, ça me dégoûtait, même. Moi, j'ai vu. C'est l'hôpital qui soulage la charité, c'est clair. Mais bon, tout ce qui est réveillon de Noël et tout ça, bon, moi, je ne buvais aucune goutte d'alcool. Bon, là, je tenais jusqu'à 3h30, 4h. Et puis quand je voyais les autres qui étaient bien éméchés, dire que j'étais comme ça, ou que je suis comme ça quand je bois aussi. Des gens qui n'arrivent plus à parler, qui bafouillent, le coude qui tombe. Enfin, bon, ça fait rire tout le monde. Mais pour celui que, quand on n'a pas vu, c'est ridicule. Hein.
Dans les signaux encore plus mineurs, dans le regard des autres, dans le lieu de travail ou dans l'espace public ou chez vous, est-ce qu'il n'y a pas d'autres signes qui vous indiquaient justement que votre coude a glissé ou que même adresse ?
Dans la journée, non, parce que je ne sais pas, j'avais sans doute, je ne consommais pas énormément d'alcool, enfin, si trop, beaucoup trop, c'est clair, mais dans la journée, non. Donc, jamais j'étais dans la rue en faisant les quatre coins du trottoir, ça c'est clair. Jamais j'étais dans un magasin en disant j'ai mangé un chewing-gum, comme certains le font, pour pas sentir l'alcool, il n'y a rien. Donc, comme moi, c'était le soir, c'était caché qu'avec des amis ou seul, j'avais pas à ruser, quoi. Si, parfois, bon, je rusais avec mon fils, c'était de cacher des bouteilles. Le style cachette, c'est dans les bottes, pour, voilà. Parce que mon fils, l'air de rien, il regardait « Est-ce que t'as pas une bouteille de rosée ?» Non, 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 je mettais tout dans mes bottes de cheval. Bon, ben, c'est terrible quand on arrive, on devient vicieux d'enfer.
Vous avez eu l'expression de dire « Mais je consommais pas tant que ça, mais quand même pas mal. »
Ben oui, quand même. Oui. Si je suis là, c'est que je consommais... Bon, pour une femme, déjà, on est... On supporte beaucoup moins. Physiquement, on est moins bien faite, enfin, mieux faite à la rigueur, que les hommes. Et ce que je buvais, un homme avec une habitude d'alcool le supporte facilement. Que moi, maintenant, avec 2-3 whisky et une bouteille de rosé, ça y est, c'est terminé. Hein. Je n'augmentais pas ma dose. Enfin, bon, c'est beaucoup trop déjà. Tous les jours, ou tous les deux jours. On était tous des amis qui buvaient. Donc, on n'avait pas à se cacher. C'était pas dire, oh, j'en prends un petit. Voilà. Quand il disait un petit, comme d'habitude, le petit, on sait ce que c'est ta dose, parce que si on t'en sert, comme des fois je me faisais pour rire, juste un petit, on lui disait, t'en as plus après ou quoi. Bon, on savait très bien pertinemment que tout le monde consommait de l'alcool, et que dans notre tête aussi, c'était bien réglé, mais je vous dis, même si on faisait pas une affaire, ou même si on l'a pas fait, bon, on va pas en mourir, on va faire la fête quand même, quoi. Tout est prétexte.
Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire quand vous allez sortir d'ici ? Vous allez les revoir ? Ou est-ce que pour vous, c'est une épreuve difficile ?
Ça va être une épreuve, mais bon, je ne vais pas être un ayatollah anti-alcool. Je n'ai pas envie de ça, parce que justement, c'est là qu'on... C'est pas qu'on s'éloigne, c'est que ce n'est pas des vrais amis dans ces cas-là. Je veux dire, de toute façon, je serai confrontée à l'alcool un jour ou l'autre. Ici, on est tous ensemble, il n'y a aucune tentation, on n'y pense pas. Je me dis à la maison, je vais continuer à boire l'apéritif. Ils continueront à boire l'apéritif. Je pense que de eux-mêmes, ils vont certainement consommer moins. Et puis, je me suis dit que quand même, par goût, un bon nectar d'abricot, c'est quand même meilleur qu'un whisky, quoi. Au goût. Donc, le whisky, c'est bien, mais on sait que c'est pour saouler, en fin de compte. C'est pas par plaisir de l'alcool. C'est pas spécialement très bon. Je pense que je vais être claire, nette. J'ai bu, je bois plus, je vous empêche pas de boire, je continue à faire comme si de rien n'était, et moi ça m'empêche, je suis quelqu'un qui rigole facilement, qui m'amuse facilement, ça va pas m'empêcher de m'amuser. Je l'ai déjà vécu, 3 ans sans alcool, je faisais des fêtes comme tout le monde, je dansais et tout, par contre je me faisais pas d'entorse, rien. Donc je sais que je peux faire la fête et blaguer autant que si je buvais. Il y aura l'alcool en moins, au départ ça va les choquer, ça va les gêner, je pense, eux de boire justement devant moi. Moi, ça ne me gênera pas. Et après, je pense que ça va être juste une habitude. Et s'ils ne sont pas d'accord, si ça ne leur convient pas, c'est que ce ne sont pas des vrais amis. Et puis, ben, tant pis. Je prendrai des autres copains et des autres amis. Voilà.
Boire, bien boire, l'intimité sous surveillance... Par Jean-François Lahaye. Lettre lue par Frédéric Cantrel. Lettre publiée dans Sans visage. L'impossible regard sur le pauvre. D'Arlette Farge. Jean-François Lahaye. Patrick Singolani. Franck Magloire. Aux éditions Bayard. Je remercie Mesdames Rhin, Conze, Cambeau, Monsieur Valissant, les magistrats, l'association Vie Libre.
et les personnels des centres de cure de l'Oise. Radio Libre, prise de son Gilles Gallinaro, mixage Simone Ronget, réalisation Mehdi Eladj.